Bienvenue aux rencontres organisées par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa.
C'est avec fierté que j'ai l'honneur de présenter le lauréat du prix du CRCCF 2020, Monsieur Normand Labrie, professeur de sociolinguistique à l'Université de Toronto et vice-doyen au programme académique à cette institution. Normand Labrie s'est distingué par ses travaux sur le pluralisme linguistique, qu'il a étudié sous plusieurs angles, allant des pratiques langagières et de l'alternance de codes, qu'il a analysé dès ses premiers travaux au sein de la communauté italophone de Montréal dans les années 80, aux politiques linguistiques canadiennes et européennes, l'aménagement linguistique et à l'accès à l'éducation pour les communautés et les personnes en situation linguistique minoritaire.
Le titre de ma communication, c'est « Tout ce que je n'ai jamais réalisé » ou de l'importance d'étudier l'existence des trous noirs pour bien comprendre l'univers. Et je cite Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et après la rétrospective de ma carrière que Nathalie vient de donner, et j'ai réfléchi à je ne savais pas que ce serait ce bel hommage, mais j'avais pensé peut-être faire une rétrospective de ma carrière. Et après, je me suis dit, je vais plutôt me concentrer sur tout ce que je n'ai pas réalisé dans ma carrière. On fait souvent face à des embranchements et on prend une décision, on va d'un côté ou de l'autre. A posteriori, on voit une ligne droite, mais si on se remet au départ de notre carrière, on a eu des choix à faire et c'est peut-être un peu un hasard qu'on se retrouve là où on est. Et je vais vous parler plutôt de tout ce qui est absent de mon CV. C'est un peu un anti-CV que je vais vous présenter qui fait état de doutes, de craintes, de déceptions, d'échecs et de regrets. Je vais pas vous déprimer en pleine pandémie, mais je vais aller sur ce côté-là. Je vais commencer avec mes premières hésitations. Les jeunes qui doivent faire des choix pour aller aux études postsecondaires sont dans une situation difficile. Les choix ne sont pas nécessairement clairs. Je pense que quand on a 18-20 ans, on ne sait pas ce que sera la vie, on ne sait pas ce que ce sera notre vie. Et j'en ai fait partie et j'ai décidé d'étudier en psychologie lorsque j'ai commencé le cégep. Un peu dans l'esprit de vouloir me comprendre moi-même. Il y avait une partie de mon identité qui était mal acceptée par la société et c'était une partie de mon identité que je n'acceptais pas moi-même. Et je pensais qu'en étudiant la psychologie, ça m'aiderait. Mais j'ai tout de suite appris qu'on n'étudie pas la psychologie pour régler ses propres problèmes. Lors de la première journée de choix de cours, j'ai vu qu'on pouvait aussi choisir des langues en option, espagnol, allemand, etc., anglais. Et j'étais vraiment fasciné par ces choix de cours et je suis immédiatement allé voir le conseiller pédagogique pour lui dire, en orientation, pour lui dire que je voulais changer d'orientation, je voulais aller plutôt côté langue. Et à l'époque, j'ai pensé peut-être devenir agent de bord pour découvrir le monde et le comprendre. Pour ça, par contre, il fallait être bilingue et polyglotte. Alors, j'ai terminé mon cégep et puis là, j'ai fait une pause, mon premier sabbatique de 2 ans. Pour voyager et puis travailler et apprendre les langues sur le terrain, sur le tas, disons. J'ai voyagé à travers l'Europe, j'y ai travaillé, j'ai voyagé à travers le Canada, sur le pouce jusqu'à Vancouver. J'ai occupé des emplois comme aide cuisinier dans des hôtels, vendeur et gérant de magasins de chaussures. À travers tout ça, je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire toute la vie, mais c'était un peu mes années... Si je prends référence à l'ouvrage de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, des années d'errance où on fait ces choix qu'on espère ne pas regretter plus tard. Et le choix que j'ai fait, c'était de revenir à l'université et de faire un baccalauréat en études allemandes que j'ai fait assez rapidement et en incluant des cours en économie aussi parce que ça m'intéressait. Et ce que je voulais, c'était acquérir la maîtrise d'un système linguistique complexe. L'allemand est relativement complexe. Et aussi comprendre les réalités allemandes. Alors, j'ai choisi ce que j'appellerais pratiquement une science inutile qui permettait de suivre mes passions, mais qui n'allait pas me donner un emploi nécessairement au bout de la ligne. À la fin de mon baccalauréat, je suis allé travailler dans un hôtel au Banff Springs, un hôtel 5 étoiles dans les Rocheuses, comme assistant cuisinier, comme j'avais l'expérience en Allemagne d'avoir travaillé dans des cuisines. Et j'ai découvert là une hiérarchisation du travail en fonction de la langue et en fonction des origines. Il y avait une hiérarchie très claire où les chefs et sous-chefs étaient européens, allemands et suisses. Les cuisiniers étaient des anglo-canadiens et les laveurs de vaisselle étaient des francophones. Et puisque j'étais sous la supervision directe des chefs européens, puisque je parlais allemand, les cuisiniers canadiens-anglais oubliaient que j'étais québécois et j'étais témoin tous les jours de discrimination quotidienne envers les francophones. Et tout en y échappant moi-même, puisque j'étais invisible peut-être pour eux dans ça. Alors, en terminant, après avoir terminé ce bac, j'avais le choix d'étudier les sciences économiques à l'Université de Toronto, à nouveau pour comprendre le fonctionnement de l'économie et du travail aussi, ou encore la sociolinguistique à l'Université de Berlin. Et là, c'était dans l'esprit de comprendre le langage dans son usage. Et je suis allé étudier avec Norbert Dietmar, qui est le grand sociolinguiste d'Allemagne. Et dès les tout premiers cours, on se retrouvait en Allemagne avec une situation où il y avait de plus en plus d'élèves turcs dans les écoles. Alors, on est tout de suite allé dans des écoles et je fais de l'observation. Et là, j'ai trouvé des enfants inoffensifs assis sur des bancs d'école, mais qui étaient perçus comme une menace. Ou un problème. Et je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas l'école qui est le problème plutôt que ces enfants-là? J'ai passé donc 2 années dans la ville de Berlin, qui est une ville de culture, et j'ai passé plus de temps au musée, au concert, à l'opéra, au théâtre et dans les galeries d'art que sur les bancs d'école, ce qui fait que ma maîtrise n'a pas avancé très vite. Alors, un jour, j'ai décidé de... j'aurais dû prendre une décision un peu plus tard. Mes premiers intérêts scientifiques sont apparus là, tout en étudiant le bilinguisme. Étant canadien, il y avait eu la commission sur les langues officielles qui avait eu lieu quelques années auparavant. Beaucoup de recherches au Canada, il y en avait très peu ailleurs. Alors, j'étais perçu comme le spécialiste alors que je n'en connaissais rien. Et j'étais perçu comme le spécialiste du bilinguisme et je devais tout apprendre à ce niveau-là quand même. On a fait un stage sur le bilinguisme en Alsace et l'Alsace était passée de la France à l'Allemagne à plusieurs reprises et le français s'imposait comme langue dominante et le vernaculaire, la variété alsacienne de l'allemand étant en voie de disparition. Et à travers les différentes observations que j'ai faites pendant le terrain, l'endroit qui m'a le plus fasciné, c'était des écoles professionnelles. Et c'est là qu'on retrouvait des jeunes qui parlaient le vernaculaire alsacien et qui étaient bilingues, alors que dans d'autres espaces, souvent, le français avait pris le dessus complètement. Et j'aurais aimé travailler là-dessus, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça a inspiré ma thèse de doctorat en partie, les questions que je m'étais posées à ce moment-là. Et ça m'a aussi inspiré le désir de faire de la recherche sur le collégial en Ontario, parce qu'il y a très peu de recherches faites au niveau collégial. Il y en a au niveau scolaire, l'accès aux études postsecondaires, mais plutôt universitaires, mais le collégial demeure une lacune. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire, le temps m'a pas permis d'entreprendre ce genre de travaux-là. La ville de Berlin, où était à ce moment-là, dans ces années-là, était au cœur de la guerre froide avec des forces d'occupation. C'est une ville cosmopolite. C'est un refuge pour les immigrants turcs, pour des pacifistes antimilitaristes et qui fuyaient le service militaire obligatoire en Allemagne. Et c'était aussi un refuge de gays, lesbiennes, etc. Alors, et on retrouvait dans cette ville que les minorités formaient la majorité, en fait. C'est une ville de minorités. On m'avait offert à ce moment-là de rester comme secrétaire du dramaturge en chef de la Schaubühne, qui est un des grands théâtres allemands. Mais j'ai réalisé que j'avais toujours pas ma maîtrise, que sans la maîtrise, j'aurais peu de légitimité. Et j'ai choisi de rentrer à Québec faire une maîtrise à l'Université Laval. Dans le cadre d'un projet pilote du Centre international de recherche sur le bilinguisme, financé par le secrétariat d'État avec le sous-ministre Alain Landry, mené par Denise Dehay, Josiane Amers, Richard Clément, Rodrigue Landry. Leur idée, c'était de faire une étude empirique à grande échelle sur le bilinguisme de l'Ontario à la Nouvelle-Écosse. D'une perspective multidisciplinaire avec des gens en droit, en sciences politiques, en sociolinguistique, en psychologie sociale. Et c'est dans ce cadre du projet pilote avec une subvention, si je me souviens bien, c'était 90 000 $ qui devait être beaucoup d'argent comparé à aujourd'hui. J'ai fait la thèse de maîtrise à Moncton sur les attitudes, les motivations et la vitalité ethnolinguistique des jeunes Acadiens. Et c'était une étude quantitative. Qui se situait à la marge de la sociolinguistique et de la psychologie sociale. Le grand projet de millions de dollars n'a pas été subventionné par le secrétariat d'État. Alors, je pense que ma maîtrise est probablement le seul produit tangible qui est resté de cette grande idée-là. Mais ce que j'en ai retenu personnellement, c'était de l'importance de la multidisciplinarité. Puis ça, je pense que ça va me suivre pour le reste de la vie. Et aussi, j'ai mesuré les limites des études quantitatives parce que j'avais fait du terrain, mais au moyen de questionnaires écrits et de tests standardisés. Et j'écrivais sur des sujets dont je ne connaissais pas la réalité pour les participants en études. Je ne connaissais pas les participants, c'était des gens qui avaient rempli des papiers, en fait. Alors, ça m'a un peu mis sur une voie pour faire la thèse de doctorat. Qui a porté, comme Nathalie l'a mentionné, sur le trilinguisme italien, français et anglais chez des Italiens de Montréal, au foyer et au travail. J'avais obtenu une bourse du CRSH avec un haut score. Alors, j'ai obtenu la bourse du CRSH et avec la même demande de bourse, j'étais tout au bas de l'échelle au Fonds de recherche du Québec. Alors, ce qui ne m'a pas empêché d'aller 30 ans plus tard, au fond, pour le diriger. Enfin, j'en ai pas voulu. Mais ça montre quand même qu'avec le même projet, avec des comités différents, avec des conceptions différentes des programmes, ça peut avoir un impact. Et là, ça a été inspiré par mon expérience à Berlin, l'intérêt pour l'immigration, mon expérience en Alsace sur les milieux professionnels, mon intérêt pour le multilinguisme et aussi suite à ma maîtrise. J'avais l'intention d'obtenir des données empiriques sur le terrain qui allaient mixer études de données quantitatives et qualitatives. Au moment où je terminais le doctorat, une équipe allemande m'a offert d'aller travailler avec eux sur un grand projet sur les Kurdes en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie. Parce qu'on avait besoin d'une personne qui parle allemand, mais je ne parlais pas ni le kurde, ni le farsi, ni l'arabe, ni le turc. Et il y avait eu à l'époque la crise des otages américains qui étaient réfugiés à l'ambassade canadienne. Et j'ai pensé que c'était un peu risqué de me lancer sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, c'est un terrain par la suite qu'il y a eu les guerres en Irak et en Syrie. Quand on fait le doctorat, comme ça, on ne sait pas où on va aboutir après. Alors, je n'ai pas pris de chance. J'ai fait le concours fédéral du ministère des Affaires extérieures. Et en disant si je pourrais devenir diplomate, ça me permettrait de découvrir le monde et de le comprendre mieux. Et quand on fait ce concours-là, j'ai passé toutes les étapes. Et la dernière, c'est l'enquête de sécurité. Alors, à l'époque, bien que la question de l'orientation sexuelle était protégée dans la Constitution, dans la Charte des droits canadiennes, ça posait problème pour les services de sécurité et l'enquête a duré 2 ans. Alors, ça m'a donné le temps de faire mon postdoc en Europe. Alors, et les ressources humaines du ministère m'avaient dit, vous savez, les services de renseignement n'ont pas le droit de discriminer en fonction de l'orientation sexuelle, mais leur pratique est de s'asseoir sur le dossier en espérant que le candidat se désiste. Alors, j'ai attendu pendant 2 ans le résultat. On m'a appelé d'abord pour une entrevue à Ottawa. Je faisais le postdoc en Europe. On m'a commandé d'être là 2 jours plus tard. J'ai été assis dans un bureau avec un agent qui m'a cuisiné pendant 2 heures sur mon orientation sexuelle et mes pratiques sexuelles dans tous les détails, ce qui était un petit peu embarrassant parfois. Alors, j'ai fait cette entrevue-là, je suis rentré et le ministère m'avait dit qu'on savait tout sur moi et que si je disais le moindre mensonge, ça devenait le prétexte pour refuser ma candidature. Alors, évidemment, c'était la question, c'était d'être très ouvert avec ce gentil agent qui me posait des questions. 6 mois plus tard, on m'a demandé de revenir Alors, je me suis représenté à nouveau pour une entrevue et même chose, même question. Et là, je devais être cohérent avec moi-même. C'était pas trop difficile, je me rappelais, de ma vie, en fait, plus que de ce que j'avais dit dans l'entrevue. Et à la fin de l'entrevue, on m'a dit, on vous offre le poste, mais à une seule condition. Mon conjoint, à l'époque, était diplomate à Paris, travaillait à la délégation du Québec. Alors, on m'a dit, vous avez le poste à la condition de signer un document qui nous permet de mettre sous écoute électronique de façon légale votre conjoint pendant 5 ans. Alors, j'ai refusé de signer. J'ai dit, moi, je ne signe pas des choses comme ça. Mais si mon conjoint désire signer, je peux lui suggérer qu'il le fasse. Et ça nous montre qu'il y avait quand même, qu'on voyait quand même le Québec comme une menace. Peut-être à l'unité nationale, je ne sais pas. Mon conjoint n'était pas menaçant, en fait. Lorsque mon conjoint a vérifié avec son administration, ils ont dit, vous savez, on est déjà sous écoute illégale par plusieurs pays, alors pourquoi pas en rajouter une légale, qui serait le Canada, et elle signe. Alors, il l'a signé et tout de suite, j'ai reçu un appel pour me dire, vous commencez lundi. Et j'étais en train de faire un postdoc sur les politiques linguistiques en Union européenne et je leur ai dit, moi, j'attends votre réponse depuis 2 ans. Il me reste 6 mois sur le postdoc. Alors, je vais rentrer le 1er juillet. Et ils m'ont dit, non, tu rentres lundi. J'ai dit, non, je rentre le 1er juillet. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est laissé. Et ça a mis fin à ma carrière diplomatique. Et ce que j'ai pensé à l'époque, c'est que je trouvais que c'était un traitement militaire un peu et ça ne me convenait pas. J'allais préférer la liberté et me retrouver sans emploi. Plutôt que de me livrer à ce genre d'exercice-là. Mon postdoc était sur le plurilinguisme en Europe et je voulais voir comment l'intégration de l'Union européenne avait un impact sur les politiques des langues au niveau supranational, national, des langues régionales, des langues des nouveaux arrivants et l'apprentissage des langues. Et j'ai fait un stage au service de traduction de l'Union européenne qui avait été relativement difficile à obtenir, mais pour voir de l'intérieur comment les choses se passent. Et on m'avait dit que c'était impossible, en fait, de faire un ouvrage aussi vaste. Et finalement, ça a été possible puisque j'ai publié l'étude chez Honoré Champion. Et par les années par la suite, dès que je suis arrivé au CREFO, j'ai continué à collaborer avec l'Union européenne, avec la Commission, comme Nathalie le mentionnait, j'ai conçu un programme de subvention, de soutien pour les langues régionales et minoritaires qui n'existaient pas. Et j'ai servi à l'évaluation des demandes de subvention pendant plusieurs années. Et je faisais l'évaluation en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol et portugais. Et c'était des séances très, très, très difficiles parce que c'est des centaines de dossiers à examiner quand on a le décalage horaire et qu'on est là pour quelques jours assis dans une salle. Alors, le premier poste est venu au CREFO, mon poste universitaire, il y a 30 ans, justement. Et là, Nathalie a fait un peu de mon parcours, mais je vais vous parler de ce qui n'a pas marché plus tôt, puisque ce qui a marché, on le sait. Première demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation de l'Ontario. J'ai voulu développer une application informatique qui permettrait aux élèves d'identifier les composantes de leur répertoire linguistique et de suivre leur évolution dans le temps, l'évolution du développement des compétences linguistiques. Alors, je devrais retourner à cette demande de subvention-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait qui fonctionnait pas là-dedans, mais je pense que c'était peut-être pas l'objectif essentiel à l'époque du ministère ou une priorité d'aller de ce côté-là, ce qui aujourd'hui, vraiment, toutes les questions plurilinguisme sont importantes. Autre chose qui a fonctionné, mais pas comme je pensais, il y avait tout le débat sur les écoles étaient en train d'être créé, le système de langue française se développait au niveau secondaire. Il y a eu tout la question de, avant d'arriver à la PAL, il y avait d'autres itérations. Et au tout début, quand je suis arrivé, on parlait de francisation. Alors, c'était un programme de francisation. Et là, il y avait un débat rude entre ceux qui avaient gagné l'obtention des écoles de langue française, qui étaient l'élite francophone, qui parlait français, dont les enfants parlaient français. Et il y avait les autres qui étaient des gens qui s'étaient anglicisés avec le temps, qui allaient venir à l'école de langue française. Et ceux qui avaient gagné le débat ne voulaient pas faire de l'école un lieu de francisation en disant « c'est déjà français ». Et ce qui fait qu'on a cherché d'autres façons de concevoir. Et là, on est arrivé à l'idée de refrancisation. On en revenait au même débat, ça tournait en rond. Et c'est comme ça que j'ai proposé un autre concept, qui serait celui d'actualisation linguistique, mais l'actualisation des compétences de tous les élèves, peu importe d'où ils viennent, de quelle langue ils ont dans leur répertoire, mais qui ne fait pas de discrimination. L'idée d'actualisation linguistique a été modifiée puisque au même moment, du côté anglophone, il y a eu un programme, il y a eu des subventions qui s'appelaient ESL-ESD, l'anglais langue seconde, anglais second dialecte, parce qu'il y a des, il y avait des nouveaux arrivants qui venaient de Jamaïque ou d'ailleurs qui parlent un autre type d'anglais. Et on a appliqué des enveloppes budgétaires pour l'actualisation linguistique et le perfectionnement du français. Et qui était l'équivalent, mais c'est venu à travers les budgets. Et on a compris l'actualisation linguistique ici comme un programme qui s'adresse à l'élève qui a une connaissance limitée ou très limitée du français. Alors, on recréait la division que moi, j'avais essayé d'éviter en proposant le concept. Et le perfectionnement du français, ça s'adressait aux élèves qui parlent français, mais qui sont originaires de l'étranger. Et alors qu'en Ontario, dans les écoles de langue française, souvent ces élèves-là ont déjà un français très développé, très standard. Ils n'ont pas nécessairement besoin de rattrapage en français. Mais de l'argent était venu et donc ça a été bienvenu dans le système d'éducation puisqu'il y avait des fonds qui venaient avec. L'autre travail que j'ai fait avec le ministère était au moment où David Corson a joint l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Il avait publié un livre qui s'appelait « Language Policy Across the Curriculum ». La politique linguistique, justement, visait, dans son ouvrage, c'était capitaliser sur les ressources langagières des élèves qui sont présentes dans l'école. Alors, son projet de politique linguistique, pour lui, était de tenir compte de cette diversité-là. Et le concept a été retenu au ministère à nouveau, mais sous la PALE, politique d'aménagement linguistique, mais beaucoup plus orienté vers une approche beaucoup plus prescriptive ou normative de ce que doit être la formation à l'école en français qui privilégie les locuteurs du français. La PALE a fait beaucoup de bien au système d'éducation en aidant à donner un projet plus stratégique au système scolaire qui a aidé à augmenter la qualité de l'éducation dans les écoles de langue française. En même temps, ça rend pratiquement impossible tous les objectifs ou les intentions actuelles de travailler sur le plurilinguisme plus que la PALE prescrit que tout doit fonctionner en français. Alors, c'est difficile d'arriver avec des projets beaucoup plus pluralistes dans les écoles. Autre projet qu'on a mené avec Monica Heller, Jürgen Erfurt, les projets internationaux dont Nathalie a parlé, on a travaillé sur la construction identitaire. Et il s'agissait pour nous de chercher à comprendre comment se définissent les communautés francophones à travers le discours qui circule du centre, auprès de l'élite francophone, mais à la périphérie aussi, chez ceux qui sont exclus ou auto-exclus de la francophonie, dans divers contextes de l'Ontario à l'Acadie. Et en regardant tous les phénomènes de résistance, de survie, de contrôle, d'inclusion, d'exclusion. Et le concept a été repris encore une fois par le ministère sur la notion de construction identitaire. On l'a redéfini beaucoup plus en fonction d'une approche beaucoup plus prescriptive ou un peu plus normative, en valorisant une certaine identité vers laquelle on devrait tendre, qui est l'identité francophone, qui ressemble à un francophone monolingue normalement et franco-ontarienne. Alors, les trois concepts, en fait, où je suis content d'avoir participé, mais en même temps qui divergeaient dans leur point d'arrivée de mon intention au point de départ. Je voudrais vous raconter une grande frousse que j'ai eue, qui m'a fait réaliser des choses sur les minorités linguistiques aussi. J'ai été invité au début des années 90 par une fondation pour la promotion du droit à l'éducation de langue maternelle à joindre le conseil d'administration. Et c'est une fondation à Atlanta, en Géorgie. Elle était mise sur pied et j'étais honoré d'être invité parce que je croyais aussi au droit à l'éducation en langue maternelle et à la promotion qu'on peut en faire. Et on m'a chargé de faire une première étude en Namibie. La Namibie venait d'obtenir l'indépendance de l'Afrique du Sud en 1990 il y avait une guérilla, une guerre civile, et le groupe qui menait la guerre civile s'appelait le SWAPO. Avec les négociations internationales, l'indépendance a été acceptée en 1990 et les dirigeants de la SWAPO ont pris le contrôle du gouvernement namibien indépendant de l'Afrique du Sud. Il y avait dans la Constitution un article qui disait que dorénavant, l'enseignement des langues, il y avait 11 langues parlées en Namibie, l'enseignement allait se faire dans les langues minoritaires les trois premières années du primaire et allait passer à l'anglais en quatrième année pour tout le monde. Alors que la population ne parlait pas anglais, même les enseignants ne parlaient pas anglais, mais c'était la nouvelle règle. Les personnes de la SWAPO qui étaient au pouvoir avaient été en exil dans les pays anglophones voisins. Ils avaient appris l'anglais, eux maîtrisaient l'anglais, ils n'avaient pas de problème avec ça, mais le reste de la population devait se débrouiller. Les langues, il y avait l'afrikaner, des propriétaires terriens blancs, il y avait l'allemand, l'ancienne colonie, et il y avait des langues africaines. Et il y avait un groupe aussi qui s'appelait les Basters, qui était une population métisse et qui avait été utilisée par les Sud-Africains lorsqu'ils avaient contrôle, comme intermédiaire entre les Blancs et les Noirs, et qui maintenant, sous le nouveau régime, se trouvaient vraiment traités comme des traîtres du fait qu'ils avaient collaboré avec les Sud-Africains. Alors, j'ai fait une semaine d'entrevues. Tous les groupes linguistiques, les associations des droits de la personne, etc. Et au fil de ma semaine de travail, j'ai réalisé différentes choses. D'abord, que le gouvernement namibien était hostile à ma présence. J'ai reçu des messages. Une personne m'a informé que ma vie était en danger, que je serais mieux de ne pas toucher à ça. J'ai fait une entrevue chez les Basters qui m'a jeté à terre, je dirais. Ils me racontaient comment ils étaient en train de s'armer pour se défendre et annoncer un bain de sang. J'ai compris que je m'étais mis les pieds dans les plans vraiment en acceptant cette étude-là. J'ai compris que les commanditaires pouvaient faire invalider la Constitution sur la base des dispositions sur les langues, c'était un peu l'objectif. J'aurais aimé faire invalider la nouvelle Constitution en disant que vraiment, ce n'est pas correct d'imposer l'anglais après la troisième année et de défendre, de ne pas accepter les langues minoritaires. J'ai compris ensuite que la mission était financée par des propriétaires terriens africanaires. L'argent devait venir de quelque part. Puis ensuite, j'ai compris que c'était, si on pouvait créer un précédent sur la scène internationale en faisant invalider la Constitution namibienne, ça pourrait aussi faire dérailler les changements constitutionnels en préparation en Afrique du Sud pour mettre fin à l'apartheid. Et ça, c'était motivé par les propriétaires terriens blancs d'Afrique du Sud qui avaient peur qu'avec post-apartheid d'être expropriés. Alors, j'ai vu toute la série complexe dans laquelle je m'étais embarqué. Et je me suis bien dit que si le gouvernement namibien mettait sous arrêt un expert international, ça apporterait de l'eau au moulin de ceux qui voulaient faire invalider la Constitution et discréditer le gouvernement namibien. Alors, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était d'interrompre. D'ailleurs, j'ai fait une fièvre majeure après mon entretien avec les Basters. J'ai arrêté tout le programme. J'ai décidé de réfléchir, de reprendre le contrôle en changeant d'hôtel, en changeant mon calendrier, mon agenda. Et j'ai convoqué une réunion de tous les représentants, tous les groupes linguistiques de l'Organisation des droits de la personne et tout ça à mon hôtel. Et ce que j'aurais dit, c'est que la disposition constitutionnelle sur les langues était vraiment déplorable. Mais après plusieurs années de guerre civile, la paix était revenue. Et faire invalider la Constitution sur cette base-là risquait de relancer la guerre civile. Et donc, il n'y aurait pas de rapport de ma part. C'était le seul rapport que j'allais leur faire, c'était tout. C'était un rapport verbal et jamais ne serait rien écrit. Et je me disais que, aussi importantes soient-elles, les langues ne justifient pas que des gens meurent pour leur cause, puis à commencer par moi-même. J'étais un petit peu égoïste aussi. Et au retour, j'ai écrit au président de la Fondation pour lui dire qu'il n'y aurait pas de rapport. et j'ai jamais eu de réponse de sa part, mais j'ai appris quelques années plus tard qu'il était décédé dans les jours qui ont suivi l'envoi de ma lettre. Et j'ai aussi appris qu'il s'agissait en fait d'un ancien chef du renseignement de la propagande sud-africaine sous le régime de l'apartheid, réfugié aux États-Unis. Alors, j'ai appris de cette expérience-là. Bon, il faut toujours faire attention, mais deuxièmement aussi que les langues, en fait, bon, l'enseignement majeur, et il y a beaucoup de gens qui meurent pour des questions de langue encore aujourd'hui dans plusieurs parties du monde. Je pense qu'il ne faut pas mourir pour une question de langue. La langue n'est quand même pas si importante. Et directement de Namibie, je me suis envolé en France, à Pau. J'avais fait partie d'un appel à proposition pour créer Euromosaïque, un inventaire des langues régionales et minoritaires en Europe. J'étais au CREFO, mais j'étais associé avec le Centre de recherche sur le plurilinguisme de Bruxelles, avec Peyton Helde, qui était mon superviseur de postdoc. Et le concours a été remporté par trois équipes qui avaient soumis. Alors, Peyton Helde, Henri Jordan, français, et Glyn Williams, gallois. Et il y avait une réunion à Pau pour préparer le grand projet pour créer l'inventaire. Et pendant la réunion, je me suis levé de la salle, je suis allé à la toilette et j'ai ouvert la mauvaise porte, je me suis trompé. Et je suis rentré dans une salle d'écoute et d'enregistrement dans laquelle il y avait des techniciens qui étaient en train d'enregistrer nos conversations sur la recherche. Et là, j'ai compris que les langues minoritaires sont vues comme menaçantes et que la recherche est possiblement vue par subversive par les États. Et on peut penser que dans ce contexte et à cette époque, bon, toute la question du basque, du catalan, du corse rendait les États frileux et voyait de mauvais œil que la Commission européenne commande des études sur ces réalités-là. Je vais bientôt terminer, mais je pense. Et je voulais vous parler de ma seule et unique expérience d'enseignement au niveau scolaire. Et c'est absent de mon CV, Nathalie n'en a pas parlé, que j'ai enseigné en 8e et 9e année. C'est parce que je l'ai faite de façon illégale et puis que je suis allé à l'encontre des consignes pédagogiques complètement. Et donc, ça ne paraît pas. Je vous ai mentionné que mon conjoint était diplomate. Il a été diplomate à Mumbai, en Inde. Et pendant un sabbatique, j'ai décidé de faire de l'observation dans un organisme, une fondation qui offrait des cours après l'école, le soir, pour des enfants des bidonvilles, pour les aider à rentrer à l'université ultérieurement. C'est un programme qui leur payait une école privée dans le bidonville le jour, qui leur payait une passe d'autobus pour se rendre à une autre école le soir et pendant 4 ans, 3 heures par soir, des cours additionnels. Et je voulais faire de l'observation. Et un jour, l'enseignante m'a dit, « Bon, tu peux rentrer chez toi, il n'y a rien à voir, je vais enseigner la géographie, c'est pas intéressant. » Et je dis, comment ça, c'est pas intéressant? La géographie des enfants de 12 ans, 13 ans, c'est l'environnement, c'est la mer, c'est le ciel, c'est la pollution, c'est la ville. Elle m'a dit, ben, si jamais, ben, si ça t'intéresse, enseigne-le, parce que moi, je trouve pas ça intéressant. Et pour ça, j'avais fait une formation. J'étais vice-doyen à la recherche à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Alors, dans la formation, on m'a dit, si vous voulez être bénévole, il faut vous engager pour une année académique complète. Il n'y a pas de bénévole de 3 semaines ici. Là, c'est une année scolaire. Et deuxièmement, English only. Les enfants venaient de plusieurs régions de l'Inde, parlaient différentes langues, mais l'école se faisait en anglais. Alors, vous allez utiliser l'anglais seulement. Et voici le textbook. Et vous ne divergez pas, vous n'êtes pas ici pour innover. Parce qu'ils auront les examens du ministère à passer et ils doivent réussir pour rentrer à l'université. Alors, je l'ai fait de façon illégale parce que dans la Constitution indienne, l'homosexualité est un crime. Alors, le ministère des Affaires étrangères du Canada ne pouvait pas me donner un passeport vert. Je devais aller voir mon conjoint comme touriste. Et comme touriste, on ne peut pas faire de bénévolat. Alors, mais là, je me suis dit, bon, j'ai deux choix, criminel ou illégal. Alors, j'ai opté pour être plutôt illégal que criminel. Et j'ai fait mon travail pendant un an. À enseigner la géographie et l'histoire de l'Inde à deux classes d'étudiants, 8e et 9e année. Et après quelques années, parce que j'ai suivi leur travail, tous ont été admis à l'université. Et chez les filles, c'est intéressant, presque toutes sont allées en business, en affaires. Et chez le garçon, il y avait différentes, ils ont pris différents choix, mais presque tous ont pris l'option français. Il y avait des cours de français en option offerte dans leur université, puis ils m'ont tous dit avec grand plaisir qu'ils pouvaient prendre le français, c'est ce qu'ils avaient pris. Et je dois dire que ça a été mon expérience la plus gratifiante dans ma vie d'enseigner à ce niveau-là, et c'est celle qui a été la plus exigeante sur le plan de la préparation, beaucoup plus qu'un séminaire de maîtrise doctorat, parce que je devais me présenter devant des jeunes le soir et je devais être bien bardé parce qu'ils avaient plein de questions. Une autre chose que je n'ai pas faite, j'ai commencé un livre qui s'appelait Homo linguistique et au début des années 2000 que je n'ai jamais pu finir. J'ai suivi beaucoup les travaux de Lavender Languages, qui est un colloque annuel aux États-Unis qui fait toute l'étude sur l'orientation sexuelle et le langage. Et je voulais faire une synthèse de tout ça en français. Et l'idée m'est venue quand on a fait le projet Prise de parole sur la construction identitaire. On étudiait donc qui fait partie de la francophonie, qui est exclu, tout ça. Et j'ai fait deux observations. En Acadie, j'ai fait une entrevue avec une collègue d'un directeur d'école et dans sa résidence et qui était célibataire, j'imagine, et qui... Et selon mon intuition, ce qu'on appelle le guédard dans le langage courant, le jargon gay et lesbienne, j'avais l'impression qu'il pouvait être gay. Et je savais qu'en Acadie, il y en a quand même. Tout le monde nous le disait, mais on ne sait pas qui, mais il y en a beaucoup. Et alors, je me disais, la question, c'était pourquoi une personne consacre sa vie, s'il est gay, à transmettre la langue française, à en faire son projet de transmission de la langue française à la prochaine génération. Mais je ne pouvais pas lui demander parce que le protocole de recherche ne me permettait pas de diverger nécessairement puis poser des questions de vie privée. Donc, je n'ai pas pu poser la question, mais je me suis interrogé assez longuement pour savoir quelle est la motivation pour des gays et lesbiennes de dire j'engage ma vie à transmettre la langue aux autres générations. Et la deuxième observation, c'était j'allais faire du terrain de l'observation dans une école en Ontario un vendredi soir. Et lorsqu'on est arrivé, on nous a dit on annule tout, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'observation, parce qu'un élève s'est suicidé cette semaine. Et là, je parlais à des gens et on m'a dit c'est suicidé parce qu'il est gay. Et vraiment, tous avaient la même façon de dire il s'est suicidé parce qu'il est gay. Et je me dis, ben écoutez, je suis gay, mais je me suis pas suicidé. Je ne pense pas que c'est une raison de se suicider. Et en réalité, on ne se suicide pas parce qu'on est gay, on se suicide parce qu'on est exclu, on est ostracisé, on est marginalisé. Et donc, la faute n'est pas nécessairement chez la personne qui est l'objet de ce traitement-là, mais plutôt dans la communauté qui lui sert ce traitement-là. Mais personne n'avait le moindre réflexe de remettre en question est-ce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Alors, et ça m'a amené à changer le protocole de recherche du projet pour aborder des questions d'intersectionnalité entre l'orientation sexuelle, donc de faire partie de communautés linguistiques ou d'en être exclu, de communautés gays et lesbiennes d'en faire partie ou exclu, et d'être bilingue, de parler le français, l'anglais, de pouvoir naviguer avec ces langues dans différents secteurs. Et donc les recherches que j'ai faites dans ce domaine-là m'ont beaucoup intéressé. Et j'avais l'intention de faire un livre dont je n'ai pas eu le temps de compléter pour différentes raisons. Alors, revenons à l'essentiel. Je vous avais dit qu'on allait parler des trous noirs et de ce qui n'est pas visible à l'œil, ce qui n'est pas dans mon CV. Je pense que si j'essaie de refaire un peu de renouer les fils, c'est de... ce qui m'a animé jusqu'à maintenant, c'est le désir de connaître et de comprendre le monde dans un esprit humaniste et cosmopolitain, en m'intéressant au plurilinguisme à travers la multidisciplinarité, la transdisciplinarité. C'est le concept qu'on a utilisé à l'Université de l'Ontario français, celui de transdisciplinarité, avec comme objet d'intérêt et de recherche ce que j'appelle language politics, la politique des langues, mais la langue comme un objet politique. Ou un objet de la politique, la minorisation, l'oppression, la résistance et l'émancipation, notamment à travers l'éducation. Et mon concept de l'éducation et la critique de l'école, c'est de n'être pas nécessairement orienté vers l'émancipation, mais plutôt vers d'autres modèles. et avec un intérêt très soutenu pour tout ce qui est francophonie canadienne et notamment en Ontario dans une perspective pluraliste. Et voilà, le reste se trouve dans mon CV.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet.